foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Monique Lys-Cohen, vous êtes philosophe, vous avez été bibliothécaire, vous êtes écrivaine et juive. Merci Monique d'avoir accepté cette invitation à Radio Présence pour nous parler de vos convictions, de votre foi et de vos doutes.
Merci Benoît de m'avoir invité sur Radio Présence.
Les auditeurs de Radio Présence connaissent bien le père d'Ivry, avec qui vous dialoguez souvent. Nous nous connaissons depuis de longues années. Parce que nous échangeons sur nos croyances, nos doutes, et puis sur le sens des mots. Et en fait, j'ai tout à apprendre sur le Talmud, sur la Kabbale. Et en même temps, vous avez apporté l'un de vos livres, plusieurs de vos livres, sur Job, sur Jésus, sur le cœur, et les Juifs ont-ils du cœur. Et nous avons encore échangé dernièrement parce que vous aviez fait une conférence dans Toulouse, à ciel ouvert, les poètes et les prophètes.
Oui.
Oui.
C'est une phrase de Victor Hugo reprise et commentée par Henri Mechonic. Les poètes ont-ils peur de devenir prophètes? C'est-à-dire que la voix, c'est un renouvellement de la notion d'auteur, comme dit Mechonic, du fond de la voix. C'est le sujet contre l'individu. Ce n'est plus l'individu dans son courage qui parle qui parle de la société, du monde, mais c'est le sujet qui parle de la méchanceté des pouvoirs en place, qui parle de ce qui ne va pas dans le monde. Et c'est donc ce type de courage du fond de la voix, du sujet, ce n'est plus l'individu. Et donc le poète-prophète a cette dimension d'extériorité par rapport à lui-même.
Alors, petite fille, vous êtes née dans une famille ashkénaze.
Ashkénaze, oui.
Et vous avez donc reçu la foi ou la pratique juive de votre famille.
Voilà, mes grands-parents étaient nés en Pologne, Russie, Ukraine et Lituanie. Ils sont venus en France, pays des droits de l'homme.
Et vous êtes née à Toulouse.
Et je suis née à Toulouse, mes parents étaient à Paris, mon père a été chassé de son métier d'ingénieur du son, même avant les lois de Vichy, hein, en août 40, les lois de Vichy c'est en octobre 40, et il est venu à Toulouse, il a ouvert un magasin, et puis après il est rentré très vite dans la résistance.
Et vous avez décidé assez vite de faire des études de philosophie.
Voilà. Après mes études secondaires, il y avait propédeutique à l'époque où on pouvait choisir des voies différentes. Et c'est la philosophie qui s'est imposée à moi avec à la lumière d'un très grand professeur de philosophie.
Que vous avez cité tout à l'heure, qui était votre directeur de thèse, Mechonic.
Non, Mechonic a été mon directeur de thèse grâce d'ailleurs à mon professeur de philosophie. C'était Gérard Granel qui enseignait à la faculté des lettres de Toulouse.
Mais c'est Platon, c'est Descartes, la phénoménologie, Kant. C'est-à-dire une distance par rapport à la réalité, par rapport à la pratique.
Je ne pratiquais plus à l'époque, je me suis mariée en dehors du monde juif et c'est ce que notre professeur de philosophie nous a appris et que j'ai retrouvé après dans l'étude biblique et dans les études juives, c'est de nous mettre à la lecture des textes, nous mettre en lien avec l'obscurité et la nouveauté des textes et parfois avec leurs contradictions. Descartes qui parle du malin génie, qui parle de Dieu, il faut pouvoir le lire et ne pas faire de cartésianisme quand on parle de Descartes, vous voyez.
Non, donc, je ne vois pas, parce que vous dites, ou je dis avec d'autres catholiques, la Bible est un texte révélé, puis ensuite on verra comment Jésus dit « Je suis la parole ». nous sommes en plein débat, mais ce n'est pas de l'exégèse. Et on doit essayer de se comprendre à travers des mots qui sont piégés. D'où notre dialogue aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'il soit trop abstrait, mais votre recherche de la philosophie, ça passe par l'écriture, mais aussi par un combat féministe, je crois.
Ça a été après, quand j'ai terminé mes études, c'est-à-dire la maîtrise, et puis mon essai pour le CAPES et l'agrégation, j'ai eu une fois l'écrit du CAPES, j'ai enseigné un peu, et puis je suis rentrée à la mairie de Toulouse.
Comme bibliothécaire.
Et puis...
L'amour des livres, encore, déjà.
Là, je me suis trouvée entourée d'un million de livres. Et j'ai béni le ciel pour me mettre dans cet univers infini.
Mais vous n'êtes pas perdue dans ce labyrinthe? Trop de signes, trop d'informations.
Comme dit Rabbi Nachman de Breslav, il ne faut pas demander à son chemin à quelqu'un qui ne sait pas s'égarer. Donc, je me suis égarée par la grâce de Dieu dans l'infini des livres. Et j'ai trouvé la capacité d'écrire.
Mais on dit aussi que ce n'est pas le chemin qui compte, c'est la force de vouloir avancer vers un but. Or, beaucoup de personnes s'égarent, vont cueillir des fleurs à droite et à gauche et perdent le sens qui les conduit.
Ce qui me conduisait, c'était, pour parler en termes très simples, c'était la foi en Dieu, savoir qu'il me conduisait, que lui me conduisait. Et je ne cherchais pas une vérité. De toute façon, dans le judaïsme, il n'y a pas une vérité avec une série de dogmes qui seraient les lieux de la croyance, mais il y a un attachement à la lettre du texte, à la capacité de réécrire les textes, d'écrire de nouveaux textes, capacité prophétique, et la pratique des commandements. La pratique des commandements, c'est-à-dire qu'avec cette garantie de la lecture infinie et de la pratique.
Mais que de guerre sainte au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. Déjà les noms, on dit peut-être Elohim, les dieux. Alors, le monothéisme?
Je pense que monothéisme, on ne peut pas le dire en hébreu, puisque le mot qui a été traduit par Dieu, théos en grec et deus en latin et Dieu en français, c'est un mot hébreu. Donc monothéisme ne peut pas se dire. Mais quand nous disons, si vous voulez, ce qui est la profession de foi juive, le chemin Israël, écoute Israël, l'Éternel, le tétragramme est notre Dieu, le tétragramme est un, c'est du tétragramme que nous disons qu'il est un. Nous ne disons pas que Elohim est un.
Déjà, il y a l'opposition. Alors, masculin-féminin, on dit, je crois, dans l'une des prières du matin, « Je te rends grâce, béni sois-tu, ô Éternel, tu ne m'as pas fait païen, tu ne m'as pas fait esclave, tu ne m'as pas fait femme. »
Voilà. Et la femme dit les deux premières bénédictions, plus une troisième qui est dite de façon positive, « Béni sois-tu qui m'a fait selon ta volonté, selon sa volonté ou son désir. » C'est-à-dire que la femme est créée dans le désir de Dieu. Alors bien sûr, si une femme dit cette bénédiction en disant « Je suis résignée à mon triste sort, à mon sort inférieur », et si l'homme s'enorgueillit de ne pas être femme, je dirais que c'est le problème de l'homme et c'est le problème de la femme qui dit comme ça. Mais être créé dans le désir de Dieu, très positivement, c'est avoir moins de responsabilités sociales qu'un homme qui doit dire les trois prières par jour et qui a plus de mitzvot, plus de commandements à accomplir. Mais c'est s'inventer soi-même dans le désir de Dieu. Je trouve ça très positif.
Bénir Dieu dès le matin et tout au long du jour. Mais combien d'hommes maudissent Dieu, à commencer par Job? Pourquoi est-ce
non,
que
Job
Dieu permet...
Maudit, n'a jamais
il
maudit
s'adresse Dieu. À lui, alors.
Il s'adresse à lui, il a refusé...
Mais c'est injuste, ce qui m'arrive.
Non. Il s'adresse à ses amis, ses trois amis, puis le quatrième. qui lui disent comme on fait de la prédication sur le malheur de son prochain, « Mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ?»
Alors vous avez développé ça dans le livre, on ne va pas en parler, mais dites-nous-le. Oui,
oui, Job, oui. De l'errance du cœur au secret de l'embryologie, publié aux éditions Horizon. Job refuse le langage de la rétribution, qui est sous le nom d'Élohim. Il refuse le langage de la rétribution auquel ses amis veulent l'amener. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et tout d'un coup s'ouvre le dialogue avec le tétragramme vers la fin du livre de Job. Et là, tout s'arrange. Tout s'arrange, ça finit bien.
Justice rétributive si elle n'est pas distributive?
Ce n'est plus la justice rétributive puisqu'il a refusé tout le long de son dialogue avec ses amis, il a refusé la notion de justice rétributive. Il est rentré dans un autre type de dialogue, dans un autre type de problématique, avec le tétragramme traduit par Seigneur dans l'ère catholique de l'Europe et par Éternel dans l'ère protestante de l'Europe.
Alors, nous sommes devant la question peut-être du blasphème. Vous êtes philosophe, vous êtes matérialiste. Il n'y a pas de blasphème dans le cadre d'une philosophie qui ne connaît pas de place à Dieu? Qui le cherche
autrement. Le blasphème
autrement.
Nous est interdit.
Nous, ça fait aux Juifs.
Des sept commandements donnés à Noé, et donc dont nous héritons également, ce sont les sept commandements de base de l'humanité. Pour qu'une société puisse exister, il ne faut pas qu'il y ait de blasphème. Donc ça nous fait réfléchir sur la situation actuelle. Le blasphème est interdit.
Et dans la société laïque, il n'y a pas de blasphème, puisque l'État n'a pas à dire son mot par rapport aux religions, par rapport à la transcendance. C'est de l'intime de chaque être. Ou
dans une société laïque et républicaine, effectivement, il n'y a pas de religion d'État, et l'État n'a pas à dire son nom. Ce n'est pas que intime, puisque là, par exemple, la loi juive est une loi qui nous met en relation avec dans la société, avec les gens dans la société, mais cette loi a été étudiée dans le Talmud comme étant compatible avec la loi du pays d'accueil.
Depuis Napoléon, mais...
Il y a eu Napoléon, mais déjà ensuite... le Talmud, c'est déjà à Babylone, à l'exil de Babylone, c'est là que le Talmud a commencé. Donc c'est dans une situation d'exil que la compatibilité entre la loi juive et la loi du pays d'accueil a été pensée, expérimentée.
Vous nous avez parlé de la laïcité, nous évoquons des termes très philosophiques, mais il y a une autre dimension de l'être, c'est celle de l'art, la dimension de la musique, et vous nous avez apporté un beau morceau, celui du Messie de Handel, que nous allons écouter.
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Monique Lys-Cohen, qui est bibliothécaire, écrivaine et,
philosophe.
Et philosophe juive.
Et poète aussi.
Et poète. Alors, nous avons évoqué, les poètes ont-ils peur de devenir prophètes ? Mais vous avez choisi ce chant, ou ce choral du Messie, dirigé par J. Eliot Gardiner. C'est le chœur final, le divin sauveur. Le rabbin Jésus de Nazareth, est-il Dieu ? C'est un autre livre, un autre thème. Nous abordons cette question, mais qui a été débattue depuis les premiers siècles de notre ère, et encore maintenant. Est-ce que c'est une image, une allégorie ? Fils de l'homme, fils du Père.
Fils de l'homme,
fils de Dieu.
Fils du Père. Qui est Jésus dans la tradition juive ? C'est un peu le sens de mon dernier livre, Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, où ce qui se trouve dans l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire cette notion d'alliance nouvelle qui est de Jérémie, du prophète Jérémie, le texte même de cette alliance nouvelle est en grec le texte de Jérémie, mot pour mot, vous le trouverez dans mon livre. Donc j'ai étudié le message de Jésus transmis à ses apôtres comme étant envoyé aux nations du monde.
Par saint Paul ou par Paul
par les apôtres, hein, par les apôtres. Et, Paul fait partie des apôtres. C'est ceux qui transmettent ce message. Et comme le texte de Jérémie est mot à mot et stricto sensu en hébreu et donc en grec, une alliance sur le cœur, et que ce que la Bible nous apprend, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est que le cœur n'est pas bon et qu'il doit être circoncis, ce qui est annoncé par saint Paul très, très précisément. Jésus transmet cette vocation juive, il est lui-même juif, aux nations du monde. Donc ce n'est pas un message interne à la communauté juive, au peuple juif, c'est un message pour les nations du monde.
Universel.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il me semble, dans le texte du Nouveau Testament, je m'excuse auprès de mes amis chrétiens si je me trompe, c'est que Jésus, pendant toute sa vie, sa courte vie, a pensé venir pour les brebis perdues du troupeau d'Israël, et puis c'est à sa résurrection qu'il appelle ses apôtres à aller vers les nations du monde. Mais ce n'est pas pour quitter les Juifs, comme ça, dans une compréhension antisémite.
La première alliance.
Une compréhension antisémite de cette vocation. C'est l'alliance existe, les Juifs, nous sommes dans l'alliance. Donc la vocation de Jésus, qui a une dimension messianique, portée par les apôtres, c'est de faire rentrer les peuples du monde dans l'alliance, sans qu'ils soient juifs. Le problème n'est pas d'être juif, mais d'être en lien positif, fécond, avec les Juifs, dans l'alliance annoncée par Jérémie, et qui est mot à mot l'alliance nouvelle, annoncé dans l'épître aux Hébreux.
Mais combien d'incompréhension et de pogroms avec cette phrase « Les Juifs ont tué Jésus » alors qu'il y a eu un débat. Et quand le philosophe Salomon Malka dit « Jésus rendu aux siens » et depuis Vatican II, un effort pour que
oui.
Juifs et chrétiens et non-croyants nous relisions cette grande... Les musulmans diraient la fitna, la discorde.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a un grand degré d'inculture, malheureusement. Par exemple, dans la phrase de Matthieu, quand il est écrit « Et tout le peuple dit que son sang soit sur nous et sur la tête de nos enfants », quand on lit une phrase comme ça de façon martionniste, c'est-à-dire hors de toute culture...
Et Martion, ça veut dire celui qui coupait
qui veut couper
les racines.
Le Nouveau Testament de l'Ancien, quand on le lit de façon inculte, On ne comprend pas cette phrase. On croit que les justes se sont maudits eux-mêmes. Or, dans l'acceptation hébraïque d'une telle phrase, que son peuple, que son sang soit sur nous et sur la tête de nos enfants, c'est stricto sensu une parole d'alliance.
Et vous avez écrit un article avec Bernadette Escaffre,
Le sang et l'alliance, où nous réinterprétons. Nous lisons.
Vous travaillez ensemble.
On travaille ensemble depuis de longues années. On a travaillé ensemble à l'ISTR, l'Institut de sciences et de théologie des religions, où nous avons créé une unité de recherche qui a fonctionné pendant 15 ans sur la question de la circoncision du cœur, qui est propre à la Bible hébraïque et au Nouveau Testament.
Mais le cœur est un terme qui est un peu biaisé aujourd'hui, très plein de sentimentalisme. On a dit souvent, mais les Juifs, c'est ceux qui obéissent au rite, alors que les chrétiens, ce sont ceux qui sont dans le sentiment et dans l'affection et dans l'amour. Et vous nous rappelez que le cœur, c'est les entrailles de la part d'un Dieu ou de Dieu qui est masculin et féminin.
Alors, ça, c'est un autre problème. Mais Jésus dit très clairement dans Matthieu et peut-être dans Marc que le cœur n'est pas bon. Et Paul dit que le cœur doit être circoncis. Et nous disons tous les jours dans nos prières qu'il ne faut pas suivre le chemin des yeux et du cœur après lesquels on se prostitue. Donc nous avons ceci en commun dans nos textes juifs et chrétiens, que le cœur n'est pas bon et qu'il doit être circoncis.
Il y a aussi cette notion de repentance, de teshuvah. Il y a aussi la notion de Yom Kippour, de grand pardon.
Alors là,
nous sommes à une période...
C'est la période des fêtes juives, du mois de Tishri.
La nouvelle année aussi.
Il y a eu la nouvelle année. Alors je souhaite à nos auditrices et nos auditeurs, Shana Tova, une bonne année, 5781, et que vous soyez inscrits dans le livre de la vie. Il y a donc la fête de Yom Kippour qui aura lieu dimanche soir et lundi, puis la fête de Sukkot et une semaine après la fête de Simchat Torah. Ce sont les fêtes à Rosh Hashanah, Yom Kippour, la semaine de Sukkot avec Simchat Torah qui ouvre le début de l'année juive. Oui.
Des bénédictions où on demande à Dieu aussi de nous bénir. Ce n'est pas celui qui est impuissant devant le mal, mais qui nous fait libre.
Oui.
Parce que le dernier jour, il se repose et c'est le Shabbat.
Et c'est le Shabbat qui va commencer ce soir. Une fois, Moïse avait demandé à Dieu de lui dire le secret du mal. Dieu lui a répondu, je ne peux pas te le dire. Mais ce que je te demande, c'est de lutter contre le mal. Nous avons à lutter contre le mal ensemble, juifs et chrétiens.
C'est ce que les chrétiens disent, faire le royaume de Dieu. Mais ça n'empêche pas toutes les questions. Je crois que nous avons pensé qu'il serait bon de terminer notre entretien par un psaume. Pour certains, c'est
oui,
une poésie.
Oui, oui.
Pour d'autres, il s'adresse à Dieu. Alors, c'est Dieu qui nous parle ou c'est nous qui parlons à Dieu, en tout cas.
C'est les deux.
C'est les deux. Très bien. Ben écoutez, il s'agit de savoir comment nous pouvons comprendre quelle est la volonté du Père, puisque notre Père chez les chrétiens, c'est la parole.
C'est comme le Kaddish chez les Juifs, oui.
Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de la fidélité. Vous nous dites, Monique, que le terme de fidélité est impropre depuis Jérôme.
Fidélité, c'est émouna, c'est ce qui a été traduit de façon générale par foi, mais c'est plutôt fidélité, émouna.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Nous avons cette émission « Ma foi, j'y crois » avec nos doutes et je crois que c'était une bonne manière de terminer cette émission.
Oui, cher Benoît.
Nous aurons vraiment l'occasion de revenir sur tous ces points parce que nous sommes devant un océan de mystères et oui. En même temps, c'est ce qui nous permet le dialogue dans la fraternité sous le regard de l'Éternel.
Sous le regard de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci Monique, Lise. Mmh.